Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Silence on Joue, Aaron Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Stardew Valley, ce jeu indé, œuvre d'une seule et unique personne qui a travaillé pendant 4 ans pour tout faire dans ce jeu. On enchaînera avec Trackmania Turbo, le nouveau Trackmania presque 10 ans après le précédent. Le meilleur jeu de voiture Ghost en contre-la-montre. Voilà, en même temps, il est un peu tout seul sur le créneau. Et puis, on finira par République, jeu d'infiltration venu du mobile qui avait aiguisé ta curiosité, Joël. Et donc, on parlera de tout ça. Et puis, on va évoquer aussi un petit peu en introduction Mythomo, parce qu'on en a déjà parlé, mais il faut en reparler à l'occasion de la sortie européenne. Et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro. Bonjour, Joël.
Bonjour.
Oui, parce que c'est un Silence on Joue en duo, binôme. Mais oui, c'est
ça,
toujours...
C'est des belles partitions qui s'écrivent en duo.
Exactement. Et bien d'ailleurs, on commence avec toi, avec des nouvelles de ce qui se passe dans la galaxie.
Donc dans la galaxie, dans une galaxie très très lointaine, dont celle de Eve Online, est en train de s'écrire une histoire. Une histoire qui va être... l'histoire, elle s'écrit depuis 2003, depuis la date à laquelle a été lancé ce MMO par les Islandais de CCP. Et ça a eu lieu la semaine écoulée, la seconde bataille la plus sanglante, en fait, de son histoire. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y avait déjà eu le Bloodbath BR5RB, voilà, au cours de laquelle il y a eu plein de...
Les coordonnées d'une étoile quelconque.
Voilà. Et donc ils sont là, donc 2 ans plus tard, en fait, ils se remettent sur la gueule. Plus de 60 000 joueurs qui se tapent, qui s'envoient des missiles, dessus. Et moi, ça me fascine, en fait, ces histoires, en fait, donc qui s'écrivent dans les mondes persistants. Et j'espère qu'un jour on aura un recueil, peut-être d'histoires épiques qui se sont déroulées, en fait, dans différents MMO.
C'est vrai que là, tu parles de Eve Online, donc ce MMO qui a cette particularité, qui a plein de particularités, qui a la particularité d'avoir une seule instance, c'est-à-dire que tout les joueurs jouent dans le même univers, contrairement à World of Warcraft où en fait c'est sur différents serveurs, ce qui fait que les joueurs d'un serveur asiatique ne pourront jamais croiser les joueurs d'un serveur
américain, peut-être d'un côté,
Même les serveurs sont limités, je sais plus, à l'époque c'était entre 10 et 15 000 joueurs par serveur, donc c'était plein de petits mondes finalement qui tournaient en parallèle. Et puis surtout, quand on jouait à World of Warcraft et à pratiquement tous les autres MMO, que ce soit les Star Wars et d'autres, on se greffait à une mythologie déjà existante. C'est-à-dire que quand on faisait des quêtes, quand on allait dans des instances, il y avait toujours des textes qui t'expliquaient pourquoi toi, héros, tu allais détruire les méchants monstres et tout, trucs comme ça. Eve Online, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire Eve Online, finalement, les joueurs créent leur propre mythologie. Et ce qui est fou, c'est que, évidemment, les développeurs de CCP ont leur rôle à jouer là-dessus, parce qu'ils ont été tout le temps à l'écoute des joueurs.
Tout le temps, c'est génial. En plus, pour marquer cette première bataille qui avait lieu là, il y a 2 ans, ils ont carrément implémenté, enfin un monument dans le jeu à la voilà à la mémoire de cette guerre.
Oui,
cette
et surtout ils avaient prévu d'augmenter la capacité en termes de serveurs et en termes d'accueil de joueurs à ce moment-là, parce que ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, qui était en train de se passer à cet endroit-là. Donc les gens de CCP sont vraiment à l'écoute de leur communauté là-dessus, et ce qui permet de créer ce genre de choses. Et en plus, dans EVE Online, c'est ça qui est génial. Il y a eu des escroqueries majeures où des faux banquiers sont partis avec la caisse. Et il y a eu comme ça des histoires de chasse à l'homme, de pirates qui poursuivent des gens pendant des mois et des mois pour essayer de voler un super vaisseau ou un truc comme ça. Il y a des histoires comme ça dans EVE Online. Il y en a toujours, et c'est vrai que c'est peut-être le seul jeu justement où il pourrait y avoir un recueil.
Ah, ce serait génial, quoi. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a un joueur qui est en train de recueillir toutes ces histoires et qui pourra écrire l'histoire. Peut-être parce qu'un jour EVE Online s'arrêtera, c'est possible. Enfin, moi, j'espère pas, mais peut-être qu'un joueur, voilà, pourra écrire l'histoire de EVE Online, de tout ce qui s'est passé, voilà, toutes ces factions.
Mais c'est vrai qu'il y a déjà énormément de très longs textes de gens. Alors moi, j'ai un peu joué à EVE Online, mais pas du tout assez pour comprendre. Je n'ai fait que lire des textes justement qui racontaient ces passages épiques de pirates, de grandes guerres, de choses comme ça, qui sont c'est assez fabuleux. Et bon, après EVE Online, là pour l'instant, au contraire, je pense a plus de chances de se développer encore parce qu'il y a EVE Valkyrie qui sort, il y avait ce jeu sur la PlayStation qui sortait en parallèle. Enfin voilà, c'est les gens de CCP agrandissent finalement leur univers, donc on peut espérer que EVE Online a encore de belles années
devant
lui. Voilà. Il faut parler de Miitomo.
Ouais, est-ce qu'on est obligé?
Bah, quand même, parce que c'est sorti donc la semaine dernière. Kokobe était venu en parler pour la sortie japonaise. Il avait pu essayer la version japonaise et Nintendo qui cartonnait, parce qu'ils avaient réussi à faire plus d'un million de downloads en quelques jours après la sortie. Là, c'est un carton assez équivalent. Je crois qu'il parle de plus de 3 millions de téléchargements dans les premières 24 heures ou les premières 48 heures. Donc, c'est un vrai carton. Évidemment. Vu que c'est entre autres parce que c'est gratuit et parce que ça ne nécessite pas grand chose et parce que ça a aiguisé la curiosité, moi je l'ai téléchargé, toi aussi, on s'est rencontrés, et donc on va pas répéter tout ce qu'a dit Kokobe, c'est que c'est basé sur le système des Mii mélangé avec le dating game, là je sais plus comment ça s'appelle, le jeu un petit peu bizarre qu'ils avaient sorti l'année dernière.
Non. C'était pas Animal Crossing, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai oublié comment c'est.
Oui, c'est toujours pas bien quand on oublie les choses comme ça. Mais bon, bref. Et on se retrouve avec une sorte de réseau social où on a des amis à qui on pose des questions prédéterminées. Donc il y a une liste absolument infinie de questions, sachant que chacun subit les première question, genre, c'est quoi ton pain préféré, hein? Ça, je pense que tous les utilisateurs de Miitomo ont dû ont réfléchi pour savoir s'ils préféraient le pain perdu ou la baguette tradition. Et puis, voilà, une série de questions troublantes, parfois. Il y a eu la question, c'est qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ta vie? C'était là, alors déjà, rien que là, tu réfléchis, t'es là, qu'est-ce qui m'a surpris le plus dans ma vie? Et en fait, finalement, tu fais passer la question parce que tu n'as pas envie de passer des heures à réfléchir.
C'est ça, ou tu n'as pas juste pas envie d'y répondre, ça ne regarde pas, ça ne regarde personne.
Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils te posent la question, genre, de quel animal t'as-tu le plus peur, ou machin, tout ça. Puis tu réfléchis 3 minutes, ou est-ce que j'ai plus peur d'un crocodile ou d'une guêpe? Et puis, à un moment, tu te dis, en fait, tout le monde s'en fout.
C'est un peu ça, tu dis. Oui, à un moment, tu dis, mais à quoi bon?
Enfin, ma réponse va même pas être drôle. Donc, tu cherches une vanne pour détourner la question, machin. Enfin, bon, et du coup, c'est une sorte de... En fait, en plus, on finit sur du pauvre AskFM, donc, qui est ce réseau social de questions-réponses pour ados, principalement. Et surtout, le truc, c'est que c'est complètement égocentré. C'est-à-dire, c'est un réseau social où Facebook, à côté, a l'air ouvert sur le monde. Mais vraiment, c'est là, Miitomo, on ne parle que de soi. où on écoute des gens parler d'eux. Enfin, où on lit des gens.
Moi, j'ai parlé de la loi El Khomri.
Oui, mais, mais moi aussi, ça m'est arrivé de parler d'un truc sérieux, mais t'as l'impression de faire.
Oui, t'as l'impression que tu dis, bon, c'est pas possible. Je suis en train de parler, mon mi va parler de la loi El Khomri,
sur
le travail. Je dis, mais bon, c'est fait peut-être un peu.
J'ai parlé du débat sur la laïcité, voilà. Et à un moment, j'ai dit, mais est-ce que je suis pas en train de dire un gros mot, quoi?
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est ça, c'est à un moment, on a, quand tu. Parce que les gens font des blagues, parce que les gens parlent d'eux, parlent qu'ils ont acheté. Acheter deux briques de lait la veille, machin, etc. Et toi, tu te dis, est-ce que je mets là-dedans un peu de sérieux? Alors, tu le fais une fois, puis tu te rends compte que non. Et du coup, vraiment, moi, je l'ai désinstallé. J'ai désinstallé ce matin, après cinq jours d'utilisation. Mais parce que...
En plus, je trouve ça assez gourmand en batterie. Enfin, alors, c'est bête, mais je trouve ça assez gourmand en batterie.
Très, très gourmand en batterie. Et puis, à partir du moment où tu mets tes notifications en « on », c'est gourmand en temps et en comment dire, ça interrompt ta vie. Les notifications Mitomo, c'est horrible. Et vraiment, moi, j'ai été limite mal à l'aise au bout d'un moment parce que... alors, il y a ce truc finalement très renfermé sur lui. Enfin, le jeu est renfermé sur lui. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un réseau social qui n'est pas du tout ouvert sur le monde. Bon, tu l'as dit, on peut parler de la loi El Khomri ou on peut parler du débat sur la laïcité, mais ce n'est pas le lieu. On sent que ce n'est pas le
lieu
pour
parler
pour
de
le
ça.
Faire. Ou alors tu ne choisis que tes amis parmi ceux qui sont potentiellement... Ouais. Ça se trouve, il y a des réseaux d'amis qui sont où ce genre de discussion a lieu d'être. Ouais. Mais sauf qu'on n'est même pas dans une discussion. C'est-à-dire qu'on répond à des questions que d'autres vont avoir d'une manière complètement aléatoire. Donc, tu sais pas à qui ça va s'adresser, quand est-ce que ça va s'adresser. Enfin, tu sais pas à combien de personnes ça va être affiché. Et donc, du coup, tu tombes sur un truc... Mais vraiment, le truc est fermé sur lui-même. Et en plus, ton mi et ton alter ego est aussi refermé sur lui-même. C'est un truc... Vraiment, j'ai ressenti un peu de la claustrophobie à un moment là-dedans. Je trouvais que finalement, il n'y avait pas de...
Enfin, moi, ça ne m'a pas amusé. Hein. Enfin, personnellement, je ne trouvais pas ça ni amusant de savoir...
Non, après, voilà. Et après, ils ont rajouté des trucs de gamification. C'est-à-dire, ton mi, tu l'habilles, machin. Ouais, c'est rigolo, mais vraiment... 3 minutes. Après, il y a des gens peut-être qui vont s'accrocher, qui seront très contents d'avoir une garde-robe incroyable pour leur mi. Et puis après, il y a ces points Nintendo, notamment. Quand j'ai raconté que je m'étais désinscrit, beaucoup de gens sur Twitter m'ont dit « Ah, mais il ne faut pas se désinscrire parce qu'il y a un Zelda Picross qui va être disponible gratuitement pour ceux qui ont 1000 points Nintendo, machin. » Mais à un moment, c'est... Ouais, en fait, j'ai trouvé ça très... Facebook et Twitter et les autres réseaux sociaux sont critiquables, mais il y a cette ouverture au monde quand même où tu peux discuter, tu peux partager de l'information. Tu vois, les Panama Papers dont on parle aujourd'hui, bah voilà, que ce soit sur Facebook ou Twitter, moi, tout le monde en parle. Enfin, dès que je me connecte, c'est des choses qui remontent. Donc, je me connecte sur Mitomo, personne ne va parler des Panama Papers.
Ah, peut-être, si. Enfin, moi, j'en aurais volontiers parlé, mais j'arrête, quoi. Je vais plus...
Mais
je vais plus
t'as pas le lien hypertexte. C'est con. Ouais, mais t'as pas de lien hypertexte dans Mitomo. T'as pas de, tu peux pas rajouter de l'information. C'est un truc où voilà, c'est clos. Et moi voilà, j'ai vraiment eu un truc de rejet. J'étais très content de le désinstaller par ailleurs. Et ce qui m'a donné aussi un sentiment bizarre parce que je ne l'ai fait que le désinstaller. Je me suis pas désinscrit de Mitomo. Ce qui fait qu'en fait mon mi est en train de rester. Il est seul. Il est seul dans cet univers virtuel. Il va recevoir la visite d'autres mi. Il va parler avec la petite boue de personnalité que je lui ai mis en quelques dizaines de questions. Et c'est une sorte d'avatar de moi qui va subsister et qui n'aura plus d'existence réelle. Peut-être j'ai y retourné pour supprimer mon compte parce que je commence à culpabiliser par rapport à cette espèce d'objet un peu bizarre que j'ai laissé. Enfin voilà, bref, c'était Mitomo à ne pas télécharger donc sur Android et sur iOS. Enfin, vous pouvez, de toute façon, c'est gratos. Le com des coms d'il y a 2 semaines, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, tout ça parce qu'on enregistre le lundi, que c'était le lundi de Pâques la semaine dernière, que voilà, et que je n'avais pas prévenu. Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu. Et donc, de toute façon, il y a 2 semaines, on n'a pratiquement eu aucun commentaire, ou alors des gens qui ont. Ça a divergé. Ils ont parlé de tout, de rien et tout ça. Enfin, s'il y a eu le commentaire d'Alan San à propos de ma petite chronique sur The Culling, parce qu'on parlait aussi de Pokken Tournament, qui n'a absolument... Tout le monde s'en fout. En même temps, est-ce que c'est pas le destin de ce jeu ?
Ça l'est totalement.
Un petit peu. Oui, c'est un peu représentatif de ce qu'est Pokken Tournament. Bref, Alan San, lui, il attendait depuis le temps que j'attendais que Silence en Joue traite de The Culling. Alors, pardon déjà par avance, mais a posteriori pour Alan San, parce que moi, j'ai parlé de The Culling avec ma maigre expérience des quelques parties que j'avais faites, et c'est vrai que je me suis pas approprié le jeu suffisamment pour en faire une vraie critique. Mais il apporte quelques correctifs, hein, parce que j'ai dû dire, en peu de temps, j'ai dû dire un certain nombre de conneries. Ouais. Il dit que les armes à feu qui font du dégât ne se récupèrent pas dans les coffres, mais c'est obligatoirement par du airdrop, comme la tronçonneuse. Oui, parce qu'il y a ce système-là où si on gagne suffisamment d'argent, on peut commander des caisses qui sont livrées par drone, et à ce moment-là, on peut récupérer les armes à feu ou la tronçonneuse, qui est un peu une arme ultime dans The Culling. Il précise aussi que la map est assez petite en fait, mais bizarrement, elle est difficilement trouvable sur le net. Et pour Erwan, un conseil, il faut jouer fourbe. Dans ce jeu, j'ai réussi à gagner en bourrant un bâtiment de pièges. Tu peux aussi te débrouiller pour fuir tout le monde et finir en 1 contre 1 avec le dernier survivant, des gens qui se seront massacrés entre eux. Il y a énormément de façons d'appréhender le jeu, même si beaucoup de parties sont définies par votre chance comme lieu de démarrage et avec les items, les objets récupérés. Et vous en avez parlé comme d'un early access, mais en fait, les développeurs du jeu le considèrent comme un jeu qui a déjà fait sa release, donc qui est déjà sorti officiellement. En dehors des soucis de réseau et quelques bugs, tout ajouts futurs comme les nouvelles maps et autres ne feront pas partie d'une politique de early access mais de suivi de jeux traditionnels. Et pour Alan San, en tout cas, le jeu se suffit en tant que tel à lui-même. Voilà, et donc The Culling, je pense que voilà, il y a vraiment des accros, et voilà, c'est un jeu qui a quand même une sacrée personnalité. Bref, c'est le moment d'aller planter des plantes, c'est une naze comme
faire cultiver son jardin secret.
Ou pas secret, avec Stardew Valley. Stardew Valley, édité par Chucklefish Games, mais développé par une seule et unique personne du nom de Eric Baron, qui a fait tout le design, la programmation et même la musique. Il y avait Alexandre Astier pour Kaamelott, et maintenant il y a Eric Baron pour Stardew Valley. C'est un jeu assez monstrueux, même en absolu. C'est-à-dire, quand on sait que c'est développé par une seule personne, c'est absolument dingue, mais même en tant que tel, le jeu est d'une ampleur assez impressionnante. Voilà, Stardew Valley, en quelques mots, si on devait le définir en quelques mots, c'est un peu la suite... finalement, de Harvest Moon Back to Nature. Pour les connaisseurs, c'était sorti sur PlayStation. C'était le premier Harvest Moon qui n'était pas édité, qui ne sortait pas sur une console Nintendo. Et Harvest Moon Back to Nature, qui est considéré un peu comme le summum des Harvest Moon, des jeux de jardin, hein, de cultivation, de culture, pardon. Oh là là, je suis fatigué. Bref. Voilà, c'est un peu la suite de... Parce qu'après, il y a eu des Harvest Moon qui étaient beaucoup moins bons selon les connaisseurs. Et voilà, c'est cette suite, non officielle.
D'ailleurs, en fait, ce jeune homme, Eric Baron, enfin jeune, je crois qu'il y a une 20... Alors, je sais pas son âge exact, j'ai vu des photos de lui, je crois qu'il y a une vingtaine, il approche de la trentaine, ouais. Ou peut-être, voilà, vraiment...
20 ans,
enfin, il est relativement jeune. Voilà, c'est un Américain qui habite à Seattle. Effectivement, comme tu disais, Juan, c'est un grand fan des séries Harvest, voilà, la série Harvest Moon, voilà, où il s'agit de cultiver ses plantes, de faire son jardin. Mais alors lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a beaucoup... Enfin, ça se ressent dans le jeu, il y a une approche aussi beaucoup plus... Alors, Il y a une approche beaucoup plus Minecraft. C'est un autre jeu, voilà, c'est un autre jeu.
C'est là où
il dit qu'il est vraiment, fan, quoi, de Minecraft.
C'est là où, dès les premières minutes du jeu, il y a un sentiment de modernité absolue, parce que c'est vrai que on est à la rencontre entre les jeux comme ça d'agriculture et les jeux de craft, comme Minecraft ou Terraria aussi, hein, qui est vraiment dans cette logique-là, avec un petit côté en plus Animal Crossing, voilà, une sorte de mélange comme ça, mélange de genre.
Et donc le jeu commence. Alors donc on incarne, voilà, on se crée son personnage. Je crois que c'est pas très, voilà, un homme, une femme. Et donc on apprend qu'il y a une petite intro où on apprend en fait qu'on va hériter, voilà, on va hériter d'une parcelle d'une petite parcelle d'une ferme dans un coin perdu. Alors on est ravis parce qu'on veut, apparemment, donc nous on a un peu assez de cette vie moderne, de la vie de bureau. Et donc on y va, on part et on se retrouve devant cette bicoque avec entouré de mauvaises herbes, de troncs d'arbres. On se dit bon. Allez, on va avoir du boulot, on sent qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Et puis on est vraiment accueillis très chaleureusement, je ne sais plus, par les habitants du coin, qu'on est d'ailleurs invité, c'est l'une des premières quêtes, en fait, on est invité à leur dire, il y en a une vingtaine, on est invité à leur dire chacun bonjour.
Alors, ça prend du temps parce qu'il faut les trouver.
Il faut les trouver, donc c'est sur une petite, voilà, sur une map qui est assez conséquente, qui n'est pas énorme non plus. Et alors tout de suite, on est vraiment... Alors moi j'adore, c'est le côté vraiment genre chaleureux, mignon, on est tous, on est super bien accueillis, et je trouve ça déjà vraiment très, assez adorable, quoi. Ouais. Et après on va pouvoir avoir des interactions avec, ça va prendre un peu de temps, j'avoue, moi je suis pas allé jusqu'au mariage, parce qu'on va pouvoir avoir donc ces interactions avec ces personnages, voilà, jusqu'au mariage. Bah, alors, comme dans ce jeu qui nous a échappé tout à l'heure, le jeu de Nintendo de dating, voilà, c'est comme ça. Sauf que là aussi, on va pouvoir avoir des mariages de même sexe, donc ça c'est sympa, plus sympa que Nintendo, qui est toujours un peu réac des fois. Et voilà, non, mais un jeu, moi je trouve ça vraiment, c'est le jeu. Très, très zen par excellence, relaxant, où effectivement, il y a des petites quêtes effectivement qui indicatives, mais après on peut faire un petit peu ce qu'on veut, passer du temps à crafter, voilà,
jouer à son rythme parce que Stardew Valley, contrairement au Harvest Moon, il n'y a pas de temps limité pour arriver à la fin du scénario ou à la ferme idéale ou ce genre de choses. C'est un jeu qui peut s'étaler sur la longueur autant qu'on veut, et on n'a pas, alors sachant en plus qu'il y a cette barre d'énergie qui est à peine pleine, qui n'est pas pleine du tout quand on se lève le matin, et qui se vide vite, c'est-à-dire que même nettoyer les mauvaises herbes de son jardin, et ben il faut passer quelques journées pour planter, voilà. Il y a le système de commerce, il y a le système de quête, il y a toutes ces rencontres avec les joueurs, et c'est assez marrant parce que et il y a aussi ce design qui est absolument qui est d'un goût exquis. Voilà, c'est inspiré du 16 bits, donc ces pixels très détaillés quand même, hein, parce que on n'est pas sur du gros pixel qui tâche, hein, c'est juste comme il faut, et c'est très dynamique. Moi j'ai trouvé ça, la map elle est grande sans être immense, c'est-à-dire qu'on peut, même s'il y a des choses à l'autre bout de la map, on y accède sans passer des plombes avant de revenir à sa maison, quand même. Et puis toutes les activités classiques de ce genre de choses, que ce soit à la Animal Crossing, donc offrir des cadeaux à droite à gauche en fonction des goûts et des couleurs de chacun, aller pêcher, cultiver différentes plantes, organiser son jardin parce qu'on est assez libre de l'organisation de son jardin, construire un puits, mettre des petites barrières, séparer les types de plantations. Ben voilà, là on a complète liberté, on peut comme ça designer sa propre parcelle d'agriculture. Ben voilà, il y a tout à faire, rien en même temps. Enfin, c'est pas non plus le jeu.
Mais c'est le jeu qui peut occuper vraiment des dizaines et des dizaines d'heures, quoi, facilement. Puis c'est vrai que c'est fou quand on pense que ce jeu a été porté par une seule personne, quoi, qui l'a fait vraiment tout seul dans son coin. Et j'imagine que c'est ses proches, on lui dit, mais écoute, t'es un peu, déjà, t'es un peu taré, t'es un peu monomaniaque avec la réalisation de ce jeu. Alors, il s'est confié il y a quelques temps sur un amas sur Reddit.
Ask Me Anything.
Ask Me Anything, sur un des forums de Reddit. Et on lui demande, mais c'était quoi les choses les plus compliquées lorsque vous étiez en train de réaliser ce jeu? Et il disait, des choses toutes bêtes, c'est le plus compliqué pour moi, c'était de travailler toute la journée, de ne pas faire d'argent, de rentrer d'argent. Le plus compliqué, c'était la manière dont les gens vous regardent, vous traitent lorsque vous dites que j'ai pas vraiment un vrai job, quoi. Ouais. Je code pour faire émerger des petites plantes. J'imagine que ça va être un peu embêtant. Et puis il raconte aussi qu'il est passé par des moments un peu de dépression en se disant qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce coin, est-ce que ça va plaire? Et finalement,
quatre ans de développement, pour être en plus quand on voit le résultat final, il a pas bossé 2 heures par jour,
Et puis tant mieux, parce que du coup le succès est là. En 12 jours, en fait, il avait vendu 420 000 exemplaires.
Ouais.
Ce qui est vraiment, c'est énorme, quoi. Il est ravi, quoi. Il est ravi, je pense qu'il ne s'attendait même pas à ce succès.
C'est des scores comparables à Firewatch dans les Indés, donc c'est pas rien, quoi. Et surtout quand on est tout seul à porter le truc, même si il y a un éditeur qui s'est greffé, Chucklefish Games, qui l'a un peu aidé sur la fin. Mais
Non, mais c'est étonnant. Il fait la musique, il raconte aussi dans cet amas la musique de toutes les notes, c'est lui. Il raconte qu'il a utilisé, il donne ses petits trucs. Il a utilisé un logiciel qui s'appelle Propellerhead, Reason. Donc il a utilisé vraiment des sons dans des banques de données, notamment. Donc c'est incroyable que le boulot qu'il a fait. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, quoi. C'est vraiment le boulot qu'il y a derrière pour faire un jeu qui est plutôt bien, réussi, divertissant, amusant, qui est à la portée vraiment de tout le monde, quoi, qui est sympa et qui se vend bien après, quoi. C'est toujours sympa, quoi, ce genre de success story.
C'est vrai que c'est pour un mec qui arrive par son talent pendant 4 ans à sortir ce jeu-là, qui est quand même, par rapport à son ambition initiale, qui est proche de la perfection. Quand on voit, c'est sans doute pas un jeu parfait, mais c'est par rapport à son ambition initiale, je pense que c'est difficile de faire mieux. Bon, pour un mec qui réussit à vendre et à passer, combien s'écrase sur le mur des green light et même des jeux comme ça qui passent totalement inaperçus sur Steam. Après, c'est la force aussi de cette scène indépendante, parce que c'est assez rigolo de penser qu'il a commencé à développer son jeu finalement dans la meilleure année, dans les premières années de grand succès de la scène indé, c'est-à-dire 2011-2012, c'est là où c'est un peu explosé. C'est peut-être ça qui l'a poussé justement à se lancer dans cette aventure. Mais c'est bien, ça montre aussi que c'est possible, que cette passion comme ça peut amener des choses en plus qui sont... C'est aussi ça, sa force, c'est que c'est pas du tout un genre surexploité, même par la scène indépendante. C'est-à-dire, le jeu d'agriculture, c'est pas...
On est plus du côté de Harvest Moon plutôt que de... C'est pas du tout Farming Simulator.
Ça n'a rien à voir.
Quoi.
C'est du jeu... Il y a quand même un scénario, il y a quand même une histoire, il y a quand même un développement comme ça... Qui marche bien. C'est assez rigolo, il y avait ce qu'il avait dit dans une interview aussi, parce que c'est aussi le genre de jeu où il y a beaucoup de tentations d'optimisation, où il y a pas mal de joueurs qui vont chercher à vendre les meilleures plantes pour avoir le meilleur ratio temps passé bénéfice et tout ça. Et lui, il dit, vous avez le temps, quoi. Profitez du jeu, découvrez-vous par vous-même. Vous pouvez passer par des Games FAQ et des wikis quelconques pour optimiser les trucs, mais finalement, il y a aussi cette possibilité de juste profiter du jeu tel qu'il est. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, c'est vrai que... Après, je suis pas... Je me suis refusé à tomber dedans parce que c'est marrant. Il y a des jeux comme ça où on arpente le chemin au début et puis très très vite on voit l'Everest, ouais. On voit l'espèce de monument qui se propose à nous en termes de temps et d'aspirateur à temps comme ça.
Et on a envie de le grimper, c'est vrai.
Ouais, ouais. Non, mais moi ça fait partie de ces jeux où je me retiens un petit peu parce que ça me fait un petit peu peur de tomber. Donc c'est Stardew Valley disponible pour l'instant sur Steam avant peut-être d'autres sorties un jour pour une vingtaine d'euros je crois
à peu près.
Voilà, c'est ça. Et c'est l'heure de parler. Ça m'a fait plaisir quand j'ai relancé pour la première fois. Ça faisait tellement longtemps. On en parlait là. Je me rends compte que ça fait presque une décennie quand même que j'avais pas touché à ce point-là à un Trackmania. C'est Trackmania Turbo. J'ai raconté une connerie, c'est pas une décennie vu que Trackmania 2 c'était 2011, donc ça fait 5 ans. Enfin, en fait, c'est 2011, mais les univers sont sortis petit à petit et le dernier univers Valais date de juillet 2013, donc c'est quelque chose de plus récent. Mais voilà, moi mes grands Trackmania entre guillemets, ceux où j'ai vraiment vraiment beaucoup passé du temps. Beaucoup passé de temps. C'était le premier Trackmania en 2003 et Trackmania Sunrise en 2005. Et puis après, il y avait ce Trackmania United qui mélangeait le Nations. Nations, c'était celui sur les circuits de course qui était gratuit à l'époque et Trackmania Sunrise. Enfin voilà, ils avaient remappé tout ça pour faire un truc en plus en réseau avec les ladders mondiaux, locaux, régionaux. Enfin voilà, parce que maintenant, quand on s'inscrit à Trackmania, on donne même son département pour avoir le classement à l'intérieur de son département, son classement de joueurs à l'intérieur de son département. Il y a eu donc Trackmania 2 en 2011-2013 et puis ce Trackmania Turbo. Alors oui, il y a eu les Trackmania Wii et DS que nous passerons volontairement sous le tapis parce que c'est pas forcément des grandes réussites. Et puis voilà, c'est le grand retour de Trackmania sur PC et console parce qu'il sort sur les consoles nouvelle définition. Il y a des fois, tu vois, je ne devrais même pas enregistrer de silence en joue. Je ne suis pas en état. Mais bon, bref, sens du sacrifice, tout ça. Bref, Trackmania Turbo vient de débarquer et ça commence évidemment sur les chapeaux de roue. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Joël, de ce Trackmania?
Tout de suite du plaisir. Tout de suite du plaisir.
C'est ça.
Tout de suite. Voilà, c'est-à-dire. Donc, c'est 200. Pour résumer, voilà, 200 tout de suite, la couleur est donnée. On va avoir 200 circuits
prédéfinis.
Courts, prédéfinis, et on va devoir réaliser le meilleur temps possible. Et voilà, c'est aussi simple et aussi bête que ça, et c'est génial, quoi. C'est vraiment, c'est super, en fait, c'est super addictif, comme cet autre jeu, Trials, en fait. Ouais. On se lance d'abord dans le premier circuit. Alors les premiers sont plutôt faciles. Après ça commence un petit peu à se corser. On commence à avoir des virages un peu retors, des routes qui font des grands huit. Là où on commence un petit peu à avoir l'esprit, les yeux un peu déboussolés. Et c'est vraiment du plaisir. Donc moi je trouve du plaisir, comme je disais. Instantané, donc on doit essayer de réaliser effectivement donc sur ces différents circuits le meilleur temps possible. On va décrocher donc soit la médaille de bronze, soit la médaille d'argent, et la médaille d'or. Voilà,
si
on est vraiment très très bon, quoi. Voilà, sachant que pour nous encourager là-dedans, on a ces véhicules fantômes,
fantôme contre lequel courir, c'est celui de sa meilleure course à soi, parce que c'est vraiment ça pour le coup, c'est le ghost par défaut pour s'améliorer petit à petit.
Donc du coup, on enchaîne donc, en tout cas dans ce mode, parce que c'est pas seulement ces 200 circuits.
Parce que ça, c'est un peu le mode entraînement quand même.
Oui, mais c'est génial, quoi. C'est, enfin, c'est vraiment. C'est moi, je suis loin de les avoir encore tous fait. Mais alors, après, dans ce Trackmania Turbo, il y a des petits trucs que j'aime bien, comme le fait de, alors évidemment, le fait de pouvoir créer. Donc ça, c'est dans les, voilà, c'est les Trackmania, le fait de pouvoir créer ses propres circuits. Et moi, il y avait, donc, on peut les créer et les soumettre effectivement. Alors, c'est plutôt bien fait. On va les soumettre effectivement à la communauté de joueurs qui vont pouvoir donner leur avis dessus, pouvoir les mettre dans leurs favoris, voilà, pouvoir s'entraîner dessus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est une petite fonction qui est toute bête, mais c'est la fonction qui génère aléatoirement des circuits. Parce que moi, j'avoue que j'ai pas la patience de créer mes propres circuits. Alors, j'aime bien juste appuyer sur le bouton et puis de voir se créer sous mes yeux cette espèce de circuit qui ressemble à rien, mais en même temps, bah, qu'il faut essayer de faire, quoi. Et donc, même un circuit qui ressemble à rien, bah, j'ai quand même un peu galéré, quoi, pour faire. Non, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Trackmania, quoi. Ce Trackmania Turbo, je le trouve. Voilà, puis pour un prix pas très cher, c'est une trentaine d'euros. Je trouve, en tout cas sur console, plutôt, je trouve que c'est une belle expérience, quoi, sympathique.
C'est vrai. Après, voilà, les contre-la-montre offline de Trackmania, c'est vrai que c'est un peu le cadeau initial. C'est le cadeau initial, celui qui te familiarise avec Trackmania. Mais normalement, enfin, quand on fait un. Quand on se lance dans un Trackmania, le premier bouton, c'est online. C'est le match contre les autres joueurs où on choisit parmi une liste de serveurs celui où il y a 99 joueurs parce qu'il reste une place. Et parce qu'on va se frotter un petit peu en temps réel à la communauté, c'est-à-dire qu'on se retrouve. Alors, la règle de base de Trackmania, c'est que tous les véhicules sont des véhicules fantômes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune collision entre voitures. Sauf qu'on voit, pour peu qu'on ait une connexion internet digne de ce nom, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on voit les autres courir en temps réel, recommencer les circuits, sachant que chaque circuit, bah, on va avoir 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes pour faire le meilleur temps. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un circuit qui va se boucler en 44 secondes et 10 dixièmes. Ouais, mais je dis que des conneries aujourd'hui, c'est grave. Et 9 dixièmes, voilà, parce que c'est plus vrai. À peu près. Et là, il y a les 100 joueurs qui ont 3 minutes pour faire le meilleur temps. Et là, toi, tu arrives, et puis à chaque fois que tu termines le circuit, tu vois où est-ce que tu es dans le classement en fonction des joueurs. Alors là, c'est là où moi j'ai senti, comment dire, un passage de génération. Voilà, un passage de génération, c'est que Trackmania et Trackmania Sunrise, moi, il y avait des circuits où, monsieur, j'en ai déjà gagné, et où il y avait 30 joueurs et j'ai fini ces premiers. Là, il y a 100 joueurs et je finis 50e maximum. C'est-à-dire que j'ai un peu perdu. Voilà, on a les réflexes qui s'émoussent, tout ça, c'est un peu normal. Bref, je ne suis pas vexé, mais je continue à profiter comme ça de ce contenu dingue. Mais, il y a un mais. C'est toujours étrange de parler d'un Trackmania quelques semaines, quelques jours après sa sortie. Ça, forcément, c'est un peu comme parler d'un MMO en ayant joué 10 heures. C'est un temps qui est logique pour un jeu vidéo, on peut en parler, mais un MMO en ayant joué 10 heures, ben on a l'impression d'avoir fait juste le début de l'intro. Un Trackmania, finalement, aujourd'hui, on peut parler surtout de ce que tu as parlé, de ces 200 circuits qui sont disponibles au début, parce que ces 200 circuits sont ceux qu'on va retrouver en majorité dans les affrontements entre joueurs, parce que les joueurs vont piocher dans les circuits déjà définis pour créer leur sélection de circuits. Parce que quand ils vont créer leur serveur, ils vont dire mon serveur, il tourne sur 25 circuits et sur ces circuits-là. Parce que forcément, c'est les circuits donc créés par Nadeo au lancement du jeu. C'est des circuits qui sont assez optimisés, qui demandent du skill, qui demandent de bien gérer les virages avec des bons des sauts bien calibrés. Mmh. C'est un peu les sauts, c'est un peu le cœur du truc, c'est bien gérer les sauts quand on construit les maps, je veux dire. Et donc, pour l'instant, quand on joue en ligne avec 60 ou 80 ou 100 joueurs en même temps, et ben on se retrouve avec les circuits Nadeo. Mais ce qui se passe, attendons encore 2 mois, 3 mois, Et là, on va commencer à voir les grands serveurs remplis des meilleurs circuits faits par les joueurs eux-mêmes. Et quand même, les circuits faits par les joueurs eux-mêmes, depuis le premier Trackmania, c'est ça la force du truc. C'est-à-dire, c'est, les joueurs sont des tarés. En tout cas, les joueurs de Trackmania et ceux qui construisent les circuits et ceux qui sont forts pour construire les circuits, c'est des fous. C'est des fous. Les mecs, ils parlent, ils passent leur vie à caler, par exemple, un saut qui va durer 12 secondes pour que, si tu le prends à pleine vitesse, tu passes à travers de 14 anneaux et puis que tu arrives pile poil à l'entrée d'un tunnel au bout de 12 secondes de vol parce que tu avais la bonne vitesse initiale, et si t'as pas la bonne vitesse initiale tu te ramasses au bout de 12 secondes, ce qui est assez vexant. Mais Trackmania, c'est ça, et moi là pour le coup j'ai presque envie de le fermer. J'ai téléchargé, il est sur mon PC, tout ça. J'ai presque envie de le fermer et d'attendre et de me faire un rappel dans mon agenda dans 4 mois. Rejoue à Trackmania Turbo, va voir où ça en est et tout ça. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas mal joué, mais il y a cette frustration d'être finalement encore aujourd'hui sur des circuits classiques parce qu'il n'y a pas encore cette folie furieuse qu'il y a dans la création de contenu. Parce que finalement... On se rappelle aujourd'hui de Little Big Planet avec tous les gens qui... Voilà, c'est un peu la même chose, un Trackmania et un Little Big Planet. C'est tant que tu fais les trucs pensés par les développeurs, les développeurs, ils sont bons.
Non, mais c'est bien. Mais ils ont circuits,
je pense que les développeurs ont cette limite intellectuelle que vu que c'est eux qui ont fait le jeu aussi, ils ont envie de faire des trucs qui utilisent les règles du jeu. Mmh. Alors que les joueurs, ceux qui font les maps, ils font des maps sans respecter les règles du jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des maps avec des raccourcis ou par exemple un virage. Ça, c'est le truc que j'adorais dans Trackmania. C'est dans Sunrise à l'époque, parce que j'ai beaucoup joué. Mmh. Mais il y avait beaucoup de maps où il y avait ces virages penchés qui optimisaient les virages,
en plan incliné.
En fait, il y a des joueurs où il fallait justement prendre ce virage, mais s'en servir en tremplin pour arriver à un autre endroit pour finalement gagner la course. Et c'est que des idées comme ça, qu'en plus tu repérais très vite, même en étant nouveau joueur, parce que vu que tu étais à côté de 35 autres joueurs, eux ils connaissaient déjà le raccourci, donc ils prenaient le raccourci. Tu voyais les mecs qui faisaient ça, tu fais. Mais où ils vont ? Et là, tu te décides à faire exactement le même truc, et puis tu te rends compte que si tu prends le truc à fond, t'arrives, tu passes à travers 4 anneaux, et puis tu arrives directement à l'entrée du tunnel, parce que, moi, c'était ce que j'adorais. Et voilà, donc j'ai cet amour de Trackmania, mais je vais attendre encore 2 mois pour. Alors après, moi, j'ai pas trop suivi, mais je pense que. Parce que le créateur de map sur console, ça doit être assez.
Je l'ai pas essayé. Moi, je génère aléatoirement.
J'ai pas regardé, mais j'espère que les maps qui sont créées sur PC seront aussi récupérables par les versions console, ce qui serait naturel a priori, mais parce que créer des maps sur console, ça doit être un petit peu coton. Bref, Trackmania, Turbo,
Vroom.
Ouais, Vroom, formidable. On va finir. Je pense qu'on va pas faire 1h15, donc c'est très bien. C'est très bien. Il faut revenir à des silences en jeu d'une taille raisonnable. Bordel. On va finir. Oui, pas de Monsieur Fall, toujours pas. Et en même temps, j'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis 2-3 semaines. Il faut qu'on. Voilà. On va s'appeler, on va se faire une bouffe, on va se prendre un café avec M. Fall, puis on va reparler de ça. Mais on est en contact, quand même. Ne vous inquiétez pas. On va parler de République.
Please, I need your help. I don't have much time. Did you do that?
Prisoners of Metamorphosis. Choose your sides carefully.
Subject is on the move. I'm going after her.
He's right there. Who is this?
République. Quel beau nom pour un jeu.
C'est pas mal.
Un jeu sorti d'abord sur mobile qui, à l'inverse des autres, sorti sur mobile et sort sur PC puis sur console.
Oui. Alors j'ai vu passer ce titre, effectivement, qui allait sortir sur console, sur PlayStation 4 notamment. Alors moi, ça m'a attiré tout de suite. Je me suis dit, un jeu dont j'avais absolument pas entendu parler et qui s'appelle République. Bon, voilà. De quoi ça parle, qu'est-ce que c'est, je me suis lancé dedans vraiment sans rien savoir. C'est pas trop mal, donc c'est assez intéressant. Il s'agit, alors comme tu l'as rappelé, alors je pense qu'il faut vraiment le rappeler, les origines du jeu,
oui.
Effectivement, c'est adapté, c'est un portage en fait d'un jeu qui avait été sorti en 2012 ou en 2013, qui avait été porté grâce à une campagne sur Kickstarter notamment, où ils avaient réussi, où le studio qui s'appelle Camouflage, un petit studio de Seattle, en fait avait réussi à réunir plus de 550 000 $. Voilà, donc le jeu sort sur iOS, voilà, Android, puis après voilà sur PC, donc maintenant sur console. Alors il faut vraiment, voilà, on sent tout de suite quand même que le jeu, on sent tout de suite que c'est un portage de par un petit peu la, on va dire la rigidité un peu de l'ensemble. Mais n'empêche que c'est assez séduisant. Alors donc, en fait, il s'agit d'un jeu plutôt donc d'infiltration et d'énigmes, où l'originalité, c'est qu'on va être à la fois... En fait, on se réveille, il y a une jeune femme, voilà, qui se réveille dans une cellule qui s'appelle Hope, espoir en français, c'est voilà. Et nous, on se retrouve dans le joueur ou la joueuse, on se retrouve dans la peau d'une espèce de pirate qui va commander les caméras et qui va aider en fait à faire sortir cette jeune fille de cette cellule, mais aussi carrément en fait de ce monde totalitaire dans lequel elle est.
On ne commande pas la jeune fille directement.
Alors on commande à la fois la jeune fille. Alors il y a deux choses.
Parce qu'il y avait ce jeu d'Eric Pieno là de comment il s'appelait à l'époque où on jouait sur les caméras. Non plus, je m'en rappelle plus. Mais bon, voilà.
Et en fait, donc double système. À la fois on incarne cette espèce de donc ce pirate qui va ce hacker qui va essayer de faire sortir la jeune femme de ce monde totalitaire. Car cette jeune femme a été emprisonnée après avoir trouvé un livre qui s'appelle République. Et puis en chemin, on va trouver aussi d'autres livres interdits comme la ferme des animaux de George Orwell, tiens, ça, donc, par exemple.
On est vraiment dans une dystopie un peu classique.
Très classique. On se retrouve à l'intérieur donc de cette espèce de monde totalitaire. C'est beaucoup, c'est des couloirs, c'est des pièces. Donc, où il y a des caméras partout que nous, on dirige. Des caméras qui vont pouvoir à la fois servir à repérer les ennemis et puis parfois aussi à déverrouiller des portes. Quoi d'autre ? Également pouvoir distraire les gardes, parce qu'il y a beaucoup de gardes en cours de chemin, donc les distraire en faisant sonner un téléphone à l'autre bout de la pièce, et donc le garde va se diriger vers le téléphone, permettant donc à Hope de se faufiler derrière lui. Donc c'est vraiment de l'infiltration très basique, avec une intelligence artificielle qui est pas toujours excellente. Effectivement, les gardes, même si on passe parfois genre juste à 2 centimètres d'eux, ils nous entendent pas, on leur fait les poches, parce qu'on peut leur prendre on peut leur faire effectivement leur voler des choses, ils réagissent pas trop. Bon, l'IA est un petit peu à la ramasse, mais ça dit, le jeu, je trouve, c'était un jeu à épisode au départ.
Ouais.
Le jeu est assez plaisant. On sent effectivement...
On continue à jouer et le hacker...
Et le hacker et la jeune femme.
Et c'est ça qui est plutôt... Expérience 112 à
quoi?
L'époque.
Ah, Expérience 112.
Expérience 112, où là, on ne contrôlait que les caméras et les objets pour dire à l'héroïne, finalement, qu'on ne contrôlait pas directement où aller.
Là, on la contrôle. Du coup, elle va pouvoir effectivement se cacher aussi dans des casiers, laissant un garde le soin de passer. Alors, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quand même des petits problèmes, effectivement, comme on jongle beaucoup avec les caméras. Des fois, on est un petit peu perdu entre les caméras, le personnage de Hope qu'on dirige. Parfois, ça se fait un peu de manière un petit peu brouillonne ou rugueuse. C'est pas toujours très très bien réussi pour le coup. Mais sinon, ça reste un jeu plutôt assez, avec un moyen modeste, un jeu plutôt sympathique. Il y a des petits clins d'œil assez rigolos, comme le fait que chacun des gardes, qu'on peut scanner, on va retrouver en fait les têtes des personnes qui ont participé au projet via Kickstarter. C'est-à-dire, voilà, vous, oui, vous trouverez des inconnus, des généreux donateurs. C'est pas mal. Faut pas s'attendre à un grand jeu d'infiltration, mais plutôt quelque chose de sympathique.
Entre aventure et infiltration, un petit peu.
Voilà. Disons que ça aurait pu être un petit peu mieux exploité. Il y a quand même un côté claustro, moi, que j'aime bien dans le jeu. C'est-à-dire que, effectivement, on est dans les couloirs, on est très serré. Ça fait parfois penser à du Resident Evil, le fait d'être de se sentir très à l'étroit entre les murs. C'est pas mal. Bon, ça aurait pu être un petit peu plus chiadé, mais bon, voilà, ça coûte une trentaine d'euros. Je trouve que pour le prix, c'est relativement correct. Ouais. Et ça reste, un jeu d'infiltration assez facile et plutôt agréable, quoi.
D'accord. Ouais, voilà. République sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Maintenant, parce qu'il est sorti sur PC et sur iOS et sur Android. En tout cas, vous pouvez choisir votre support qui vous plaît. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Et la question rituelle, monsieur, à laquelle vous n'allez pas échapper, hein ? Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ?
Monsieur Métro, il lit beaucoup. Alors il lit beaucoup. Donc là, je viens de terminer deux livres que je trouve... pas terminés. J'en ai terminé un sur les deux. Le premier qui s'appelle Americana, c'est d'une jeune femme nigériane qui s'appelle... C'est son troisième livre. C'est une écrivaine nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie et qui raconte, en fait, dans cet ouvrage, l'arrivée d'une jeune femme, d'une jeune nigériane aux États-Unis qui arrive là-bas pour faire sa vie. Et je trouve ça passionnant sur ce que l'auteur nigérian dit, sur le fait d'être noir aux États-Unis quand on est juste émigré, en fait, quand on vient juste d'émigrer d'Afrique. En fait, elle parle vraiment de la condition d'être noir aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et c'est juste, je trouve ça passionnant. Et en même temps, c'est Americana, c'est aussi un peu une comédie de mœurs. C'est assez drôle, c'est assez bien vu. Puis il y a une belle histoire d'amour aussi à l'intérieur. Vraiment, ça m'a vraiment emballé. Et là, je suis en train de lire, mais alors là, ça, j'adore. Ça s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Erwan, La griffe du chien. Je ne sais pas si c'est quelque chose. C'est un des monuments, je trouve que c'est un polar culte, qui racontait en fait la guerre qui prenait pour arrière-décor la guerre que menaient en fait les États-Unis et le Mexique contre les narcotrafiquants des années 60 aux années 80.
Ça me dit quelque chose parce que tu m'en avais parlé. Peut-être. Voilà, c'est ça.
Et là, en fait, donc Don Winslow a écrit la suite, The Cartel, donc qui se passe du début des années, en reprenant les deux personnages principaux, du précédent livre, à la fois le grand narcotrafiquant et le flic qui le traque. Et c'est juste, mais c'est passionnant, quoi. Non seulement c'est un roman qui est un thriller qui est haletant, mais aussi c'est un roman très bien documenté sur le narcotrafic entre le Mexique et les États-Unis, trafic de méthamphétamine, de cocaïne, de diverses drogues. Et c'est passionnant. Alors effectivement, c'est très sanglant, c'est pas marrant. Effectivement, si on suit un peu l'actu, on voit que c'est dans cette ville de Ciudad Juárez, effectivement, qui est tristement réputée pour ses nombreux, pour son taux de criminalité très élevé.
Pour les femmes travailleuses
enlevées, pour les femmes qui sont enlevées, tout ça. Don Winslow s'en fait l'écho. Et puis aussi, je trouve qu'il apporte aussi une réflexion sur le trafic de drogue, où il explique effectivement que les États-Unis ont aussi... Que le problème du trafic de drogue, ça vient pas seulement du Mexique, mais aussi du fait que les Américains sont aussi des consommateurs, quoi. Et Don Winslow dit, mais qui sont les plus corrompus ? Est-ce que c'est les Mexicains qui transportent et, vendent la drogue ou cet État américain qui en consomme, et qui se voile la face en faisant la guerre, finalement, à soi-même, quoi.
Oui, guerre éternelle, en plus, que toi-même t'as amené dans ton pays aussi, et dans les pays frontaliers.
Et le livre est génial, quoi, vraiment fantastique.
Ah bah, écoute, c'est traduit en français, parce que je vois que c'est la version...
Ça sort en français, je sais pas quand, mais ça va sortir. Mais lis d'abord La griffe du chien, parce que ça se suit.
D'accord. Voilà. Quand j'aurai retrouvé le temps de lire, il faut d'abord que je finisse ce précédent, c'est un peu compliqué. Bref, moi je passe encore mon tour.
T'as pas le droit.
Je vais pas parler de... Par exemple, il y a la saison 2 de Masha et Mishka.
C'est quoi?
Mais Masha et Mishka, c'est Mishka, c'est une Mishka, c'est un ours, et Masha, c'est une petite fille. Et il y a la saison 2 de Masha et Mishka qui sont arrivés sur Netflix et qui sont diffusés sur France 3.
Ouais.
Et dans les séries pour gamins, c'est assez marrant parce que les séries pour gamins, ceux qui ont des enfants vont me comprendre. On sépare en deux les séries pour enfants, les dessins animés pour enfants qu'on subit ou qu'on accepte en fait. Voilà. Par exemple, il y a la catégorie Sam le pompier. La catégorie Sam le pompier, par exemple, qui englobe à peu près tout ce qui se fait de tout pourri, qui a la légende de Taconca, ou je sais plus trop quoi, avec un bison et des loups, où il y a... c'est comme ça, c'est des horreurs où Zou. Zou le zèbre. Non, mais c'est laid, c'est chiant, c'est machin. Sauf que les gamins, ils n'ont aucun goût. Donc, ils aiment.
Mais
ils
ont un goût,
quand même. Moi, mon gosse, il a adoré Sam le pompier jusqu'au jour où il a dit non. Ça a été un grand jour. Bref. Pour aller... voilà, ça, c'est la catégorie au nid des parents, parce qu'en fait, tu peux rien faire. S'il y a un jour, tu zappes sur France 3, sur Ludo ou machin, et qu'il y a ça qui passe et qu'il aime, t'es foutu, parce qu'après, il y a le replay, il y a Plus, il va vouloir voir ça, machin. Et après, il y a les séries cool. Les séries cool, alors, ça, c'est la catégorie supérieure. Après, il y a le tout venant. Le tout venant, c'est les séries à peu près acceptables, genre Peppa Pig. Ouais. Bon, c'est pas non plus tout pourri, c'est pas génial, mais bon, bref, t'es pas en train. Et après, il y a les séries cool.
C'est lesquelles?
Alors, les séries cool, il y a Les Lapins Crétins.
Ouais.
Parce qu'il faut quand même dire, Les Lapins Crétins, il y a la fin de la saison 2 là, qui a été diffusée par France 3, qui avait jamais été diffusée avant. Et Les Lapins Crétins, le seul problème des Lapins Crétins, c'est que ça a été tellement rediffusé que tu as déjà vu les épisodes. Tu les as déjà vus. Donc, quand il y a des nouveaux épisodes des Lapins Crétins, toi, t'es un peu, c'est la fête. C'est wouhou! Un épisode que j'ai jamais vu. Et bref, et dans l'autre catégorie des séries cool, il y a Masha et Mishka. Et Masha et Mishka, donc, c'est une petite fille et un ours, c'est une série russe. Mmh. Ouais, russe. Et c'est à mourir de rire. C'est très, très drôle. Il y a la petite fille qui parle et l'ours, il dit rien, mais elle fait plein de conneries et l'autre, le gros ours, il essaye de réparer les conneries. Et franchement, c'est super bien animé. Animé, ce qui est quand même aussi parmi les critères, parce que voilà, Sam le pompier, c'est vraiment tout pourri. et c'est drôle, et voilà. Et dans les autres séries, moi, en tout cas, j'ai du bol, c'est les Scooby-Doo, et notamment Trop Cool Scooby-Doo, donc, dont j'ai déjà dû parler ici, qui est quand même une des séries majeures du 21e siècle. Voilà.
Donc, et moi, je fais une confession, des fois, je regarde Gulli. Gulli, rien que pour Adventure Time.
Adventure Time,
que je recommande, qui est vraiment, c'est une série pour les enfants, mais qui a hurlé de rire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment drôle, on se demande vraiment ce qu'ils ont, voilà,
ouais,
ce qu'ils prennent.
Le problème, c'est que moi, pour les séries Gulli, en tout cas, qui ont l'air un peu cool, mon fils comprend rien.
Il comprendra rien, mais toi, tu vas tout comprendre dans Adventure Time. Ou tu vas rien comprendre, et tu vas voir, c'est très, très
bien. Après, il y a les séries qui... Moi, malheureusement, je ne peux pas encore zapper sur les Star Wars et les Avengers et les machins, parce que c'est pas encore... voilà.
Ça va venir.
Ouais, ça va venir, mais bon, bref. Voilà, tu vois, donc j'ai parlé... Masha et Mishka, saison 2, sur Netflix et sur Ludo, je crois, en ce moment. Bref, et puis on va continuer de parler de jeux vidéo ici. Il y a un gros point d'interrogation pour la semaine prochaine, on n'est pas encore sûr de faire l'émission, mais en tout cas, au plus tard dans 2 semaines, on se retrouve ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao. Et voilà, stop. Et à la technique, c'était Mathilde Mallet, que je n'ai pas oublié. Voilà, et à très bientôt, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.